Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, les Grandes Gueules.
Bah oui. Selon une étude de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, donc 57% des 18-25 ans n'hésiteraient pas à s'engager dans l'armée pour protéger leur pays en cas de conflit. 62% des jeunes Français sont même favorables à l'instauration du service militaire obligatoire. Qui a dit que nos jeunes n'étaient pas patriotes? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on se posait plus. L'Europe était en paix. Alors il y a eu la guerre bien sûr en Yougoslavie, mais enfin bon, l'Europe était plutôt en paix, notamment depuis la chute du mur de Berlin. On pensait qu'on vivrait tranquillement. Et puis il y a eu l'Ukraine. Et puis il y a ces conflits israélo-palestiniens. Bref. Et donc forcément
les attaques terroristes qui ont ramené beaucoup de
les
monde.
Attaques terroristes aussi sur notre territoire. C'est une guerre aussi qu'on nous mène de l'intérieur. Et donc ces jeunes Français se disent mais moi je serais prêt à m'engager en cas de guerre. Vous avez été surpris? Vous dites bravo. Qu'est-ce que tu dis Antoine?
Alors moi je suis
fier.
Mais oui, Antoine, il est content là.
Mais non, attendez, je suis plus que fier.
Toi, t'es réserviste.
Moi, au-delà des paroles,
de la Seconde Guerre mondiale.
Au-delà des paroles, moi, il y a les actes qui vont avec, et ça fait bientôt 2 ans que je suis membre de la réserve opérationnelle de l'armée de terre. Alors, j'ai un devoir de réserve. Je vous parlerai pas de ce qu'on fait, etc. Mais j'ai aujourd'hui passé près de 150 jours sur les 2 dernières années à me former, à être prêt et à être disponible le moment venu si on avait besoin de moi. Et donc, je pense que tous ces jeunes qui aujourd'hui disent qu'ils sont prêts à le faire doivent savoir qu'on peut déjà le faire aujourd'hui, qu'on peut s'engager dans la réserve opérationnelle et donner ses week-ends, donner ses vacances pour être préparé. Et dans un monde dans le monde dans lequel on vit, bah, je pense que ma génération n'exclut plus de devoir un jour à son tour prendre les armes. Il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont connu cette période de paix où on avait l'impression que la paix serait éternelle. Eh bien, ma génération et les jeunes d'aujourd'hui, on sait bien que la paix n'est pas éternelle et que si on veut sauver la paix, il faut être prêt à se battre.
Zorabitant, surpris par ce sondage?
Non, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle parce que le patriotisme, souvent, on dit que les jeunes ne sont pas patriotes, mais il y a un besoin d'appartenance à la communauté et au collectif, finalement. Parce que c'est ça que ça dit le patriotisme, ça dit l'appartenance à son pays et puis l'envie de l'intérêt général et du bien commun. Donc c'est plutôt rassurant, mais c'est marrant parce que du coup ça, quand on parlait d'autorité tout à l'heure sur Gabriel Attal et ses propositions, on voit bien qu'il y a un décalage entre le désir des jeunes d'autorité et d'ordre qui les sauve et qui permet justement qui leur permet d'avoir un parcours de réussite, de se projeter, parce que quand on demande aux jeunes quels sont leurs rêves, vous serez totalement surpris. En fait, ils ont des rêves très simples. Ils veulent un travail, un toit, une maison.
Oui, c'est toujours à peu près les mêmes
rêves. C'est toujours les mêmes rêves. Ça fait 30-40 ans que je suis avec des jeunes. En 40 ans, ils me disent tous la même chose. Personne ne rêve d'aller sur la Lune. Ils ont des rêves très basiques. Donc, il y a une demande d'autorité et l'État n'est pas au rendez-vous pour répondre à cette autorité à tous les niveaux, c'est-à-dire l'autorité à l'école, l'autorité en périscolaire, l'autorité au foot, etc. Donc ça veut bien dire qu'il faut que l'État, s'il y a des choix budgétaires à faire, ce que je peux comprendre, eh ben, il y a des priorités, peut-être en supprimant une cinquantaine de comités de Théodule, peut-être qu'en réduisant un certain nombre de choses qui ne sont pas très utiles parce que l'éducation est un investissement pour la nation et pour le pays et pour l'avenir du pays, eh ben, on peut couper de l'argent quelque part et puis se dire on va l'investir justement dans ce désir d'ordre et d'autorité, et ça n'empêchera pas du tout les jeunes ni de s'épanouir, ni de travailler, ni d'étudier, ni rien. Au contraire.
Alors, Frédéric Farah, moi je suis même surpris, 62% souhaiteraient le retour du service militaire
mais
obligatoire.
C'est incroyable.
On a fait une erreur là, en le supprimant.
Mais ça ne fait pas de mal, de toute façon, la rigueur et l'autorité.
Moi, je suis effectivement surpris de ces chiffres. Plusieurs choses dessus. Le patriotisme n'est pas un chauvinisme.
Oui.
C'est vrai. Donc on peut être patriote sans être chauvin.
On peut être patriote sans être nationaliste.
On peut être patriote sans être nationaliste, évidemment. Et on peut se rassurer puisque la République nous rappelle que la seule communauté qui doit être retenue, c'est la communauté nationale.
Tout à fait.
Et qu'il n'y en a pas d'autre et que la République reconnaît les individus et pas les communautés. Il n'y a qu'une seule qu'on reconnaît, qui est la communauté nationale. Ça, c'est le fondement de la République. Moi aussi, je suis surpris parce que Là, c'est pas pour faire de la pub pour mon bouquin qui sort, hein.
Mais ça s'appelle comment
Alors, il y a un bouquin qui
c'est bien amené.
Donc, il sort le 15 mai, qui s'appelle No Frexit, ce que les jeunes pensent de l'Europe. Et j'ai interrogé le public que je connais, c'est-à-dire des lycéens, des gens à l'université, des gens en prépa, etc. Et quand je leur pose la question, qu'est-ce qu'ils attachent à l'Europe? C'est pas la paix, la démocratie, etc. J'en ai interrogé plus de 460 à cet effet, hein, et ça donne lieu à ce bouquin. C'est ce que tu disais. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils aiment dans l'Europe, c'est ce qui est concret. C'est-à-dire voyager, il n'y a pas de papier, on peut se projeter dans l'avenir en Europe, c'est plutôt un espace
ouvert,
une monnaie que l'on peut palper, qui est commune, parce que qu'on aille d'un pays à un autre, il y a 20 pays qui la partagent. Mais effectivement, c'est pour ça que ça me surprend, parce que j'ai vu personne parmi, alors 400 jeunes, c'est pas 2 millions de jeunes, hein, on est bien d'accord, mais je n'ai pas vu des gens qui étaient dans cette direction, service militaire, implication de ce genre, et qui veulent plus ça. Donc c'est pour ça que je suis assez surpris de ça, mais on peut concilier les deux. Je crois qu'effectivement, ce qui m'a donné le sentiment, cette jeunesse que j'ai rencontrée, qui est moins politisée, mais qui davantage peut avoir des opportunités.
Comment expliquer ça? C'est quoi? C'est de théorie? C'est de la guerre en Ukraine?
Pardon Zora, c'est pas de la recherche d'autorité. Ils y viennent pas pour trouver un truc pour eux. Ils y viennent parce qu'ils savent que dans le monde dans lequel on est, il va falloir défendre notre liberté. Et donc, tu as raison, ils sont attachés à la liberté, mais parce qu'on est attaché à cette liberté, on est prêt à la défendre et on veut s'y préparer. Et vraiment, moi, ce que je vois dans la réserve opérationnelle, c'est des hommes, des femmes qui ont décidé qu'eux seraient prêts au moment où il faudra l'être.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une envie d'engagement? On voit que l'engagement politique, quand même, est en recul. Il n'y a plus personne dans les partis politiques.
Total.
Il n'y a quasiment plus de militants. Enfin bon,
même dans les syndicats.
Dans les syndicats, c'est pareil. Hein. Enfin,
quand il y a un besoin d'engagement.
Quand il y a des élections syndicales, personne ne vote. Bon, alors il y a un besoin d'engagement aussi. Il y a des associations. Il y a des jeunes qui sont engagés, notamment pour l'écologie, etc. Mais je crois qu'il y a un besoin d'engagement dans cette jeunesse. Et c'est aussi une façon de dire je veux m'engager pour autre chose que ma vie petite.
Mais dans le sondage,
quelque chose qui est plus grand que moi.
Mais dans le sondage, il y a quand même un quelque chose d'important, c'est que la première cause qui préoccupe les jeunes, c'est quand même le climat. Avant le reste. Et ça c'est quand même important.
Je voudrais que ceux qui nous écoutent, hein, est-ce que vous seriez prêts à vous engager en cas de guerre? Est-ce que vous faites partie de ces 57% de jeunes Français prêts à s'engager en cas de guerre?
Et 57%, c'est pas assez.
Allez-y, appelez-nous au
3216. C'est vrai.
Et 57%, c'est pas assez. C'est-à-dire qu'on devrait tous être prêts à s'engager
100%.
Pour défendre. Mais évidemment.
On devrait être au moins à 80, quoi.
Mais non, mais à 80,
au moins, normalement.
Pardon, mais en fait, la question se posera même pas.
Il y a des pays où c'est tout le monde.
Pardon, Zora. Même en cas de guerre, tous les hommes en mesure de porter des armes devront se rendre à la caserne la plus proche.
Donc c'est en Ukraine.
C'est même pas si t'as envie. Voilà. L'exemple ukrainien, c'est
tous
t'as pas le choix. Il faut sauver ta vie et sauver ton pays. Donc en fait, on est au-delà des 57% qui seraient prêts à s'engager. C'est tout le monde qui devra peut-être y aller un jour.
Je pense que dans des pays qui sont en guerre depuis 70 ou 80 ans, c'est sûr que la question se pose pas. Nous, on est censé être en paix depuis la Seconde Guerre mondiale, ne pas être menacé directement d'invasion d'un pays.
Mais justement, on s'est endormi. Alors que
endormi.
Mais la Pologne, les États baltes où je vais de temps entend, vivent depuis des années, non pas en guerre, mais avec l'idée que l'ogre russe est à côté, que l'ours russe est à côté. Et donc, ils sont tous prêts, mentalement, un jour à se défendre. Et nous, on a vécu dans une espèce de cocon, en disant que la guerre était loin, etc.
Et
donc, on n'est pas prêts
avec les Allemands.
Non, mais je pense qu'effectivement, c'est un luxe, la paix, et un luxe qu'il faut
défendre.
La guerre... avant d'en parler, il faut vraiment prendre conscience ce que c'est. Je le dis très tranquillement parce que quand j'étais enfant, j'ai quitté un pays parce qu'il y avait la guerre.
Le Liban.
Sinon, je ne serais jamais venu en France.
La guerre au Liban a duré combien de temps?
13 avril 1975 jusqu'en 1990, 89-90, donc une quinzaine d'années qui a fait que plein de Libanais comme moi sont partis. La guerre, j'en ai quelques souvenirs, et c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, qui est extrêmement...
Il ne faut pas glorifier la guerre.
Non, il ne faut pas la glorifier. Et moi, je sais que ce qui m'a fait aimer la France, c'est ce luxe dont je bénéficie tous les jours depuis tant d'années que je suis ici, qui s'appelle la paix. Et j'ai conscience que c'est un luxe considérable parce que...
Mais c'est peut-être un luxe fragile.
Et c'est un luxe fragile, je le sais. C'est pour ça que toujours que dans le discours politique, quand les gens commencent à parler de guerre civile ou autre, je dis attention, parce que je sais d'où je viens et c'est quelque chose qu'il faut prendre.
Qu'est-ce que c'est une guerre civile?
Qu'est-ce que c'est qu'une guerre civile? Et il faut prendre ça avec beaucoup de précautions parce que c'est pas du tout marrant.
Je voudrais qu'on donne la parole à Fred qui est avec nous et qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Fred.
Salut les GG.
Bonjour Fred.
Vous trouvez que 57% finalement c'est assez faible?
Sur le coup, quand j'ai vu le sondage, j'ai trouvé ça un peu étonnant, ouais, parce que je me dis que si on est français patriote, normalement, on devrait tous se lever, quoi. Peut-être que c'est un peu utopique, enfin peut-être un peu romantique comme façon de voir les choses, mais je me dis, enfin moi, je suis pas guerrier dans l'âme, mais si on devait venir envahir mon pays, j'aurais immédiatement envie de me lever et aller défendre mon pays.
Ça fait 43%.
Ça veut dire qu'il y a un déficit patriotique selon vous?
Moi, je pense. Hein, je pense. Enfin, après, il y a forcément une partie de la population qui a voté, donc forcément, ils sont d'accord. Mais allez voir un peu ce qui se passe. Je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas franchement l'attitude patriote. Quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pour ça que dans ma question, je mettais qui a voté. C'est vrai que c'est une vraie question. Je suis sûr que si on faisait un sondage à 100% français, sur tous les Français, on aurait peut-être un score très différent. Je sais pas.
Sur tous les jeunes, surtout.
Oui, c'est les jeunes, 57%.
Surtout les 18-25 ans, sur la totalité des 18-25 ans, ce serait intéressant.
Oui, moi,
c'est ça, c'est 57%.
C'est la totalité des 18-25 ans.
C'est un sondage.
C'est utopique.
On ne peut pas interroger tous les 18-25 ans. C'est principe d'un sondage, c'est un échantillon. Mais dans un échantillon représentatif.
Mais je sais bien.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins d'élan patriotique qui a pu y avoir il y a une décennie ou deux, quoi.
Ouais, par exemple, je vais parler de ma génération, hein. Je suis pas convaincu que du temps de ma génération, il y avait 57% des jeunes qui voulaient s'engager.
Olivier,
hein. Moi, j'étais une génération qui a vécu la chute du mur de Berlin. On était plutôt dans l'idée que c'était terminé. La paix serait éternelle. On était tous, c'est le début de la mondialisation.
Autour de la table, on vous pose la question.
Après, moi, j'ai fait l'armée. Je fais partie d'une génération qui a été l'armée. Voilà, c'est sûr.
Mais tous, attendez, si on vous pose la question demain, est-ce que vous vous battrez pour défendre votre pays, vous répondez nécessairement oui.
Ah bah évidemment.
Non, attendez. Ceux qui disent non, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que
ce sont des ennemis, Antoine.
Il faut les mettre dans un internat de redressement. Je pense que c'est beaucoup. C'est aussi grave que ce que vous décrivez. C'est que quand on n'est pas prêt.
Mais ça serait intéressant de savoir pourquoi les 43% restants n'ont pas voté oui.
Mais parce que c'est des gens qui n'ont pas envie de faire la guerre, soit par peur,
c'est pas une envie de faire la guerre. Tu dis ils n'ont pas envie, mais personne n'a envie de faire la guerre.
Il y a des déserteurs, des gens qui... Il y a des gens, à l'époque où le service militaire est obligatoire, il y a des gens qui étaient objecteurs de conscience.
Comment ça se passait? Il y avait une forme de sanction sociale ou pas du tout?
Oui, parce que quand tu étais objecteur de conscience, tu devais faire, je crois, 2 ans de mémoire dans une association, etc. Oui. Tu devais quand même donner de ton temps. Hein,
L'objecteur de conscience, il est gentil, je respecte son point de vue, mais enfin, s'il y a un vrai conflit, on va y aller à sa place, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Exactement.
À un moment donné, c'est comme une bagarre dans la rue, je suis désolé, je déteste la bagarre, mais moi, si je me fais agresser, je vais avoir peur, je vais pas avoir envie d'y aller, mais je vais pas rester debout à me prendre des gifles, hein, je vais me défendre, quoi. Donc le schéma, il est le même, quoi. Je pense que même si quelqu'un vient chez vous, vous avez pas envie, ça va être une scène, enfin quelque chose de très de grave, mais vous allez vous défendre comme vous pouvez. Donc c'est presque instinctif, je pense. J'espère que tout le monde a un minimum d'élan patriote et que le jour où il y aura un conflit, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais si ça devait arriver, j'espère que tout le monde se lèvera et puis qu'on ira défendre le pays, quoi.
Enfin, Vous avez touché le vrai sujet, Fred. Vous avez dit, j'espère que c'est instinctif. Bah oui, c'est instinctif de se défendre, de défendre son pays. Mais cet instinct-là, il a été tué par une certaine idéologie, une idéologie pacifiste, une idéologie de « Ah non, la violence ne résout rien », etc. Sauf que il faut répondre à la violence par la violence pour préserver la paix. Et là, quand je dis ça, j'entends déjà ceux qui me diront « Ouais, Antoine, t'es un va-t'en-guerre ». Pas du tout. Je suis pas va-t'en guerre. Je ne souhaite pas la guerre. En revanche, je dis qu'on est devenu trop faible, qu'on s'est trop affaibli et que cet affaiblissement moral, physique, intellectuel nous rend fragiles face à nos agresseurs.
Moi, je crois juste que les choses reviennent à la normale. On est en train de vivre la fin de l'après-Seconde Guerre mondiale, même première, parce qu'elles sont très proches. Et on a vécu une période de paix, comme ça, très sympathique, qui nous a peut-être rendu un peu naïfs, un peu faibles. Et là, on est en train de se prendre une claque parce qu'on se rend compte que le monde, lui, il a continué à vivre avec ses conflits, avec ses problèmes, avec ceci, avec cela. Enfin, on commence bien à sentir que nous, en Europe occidentale, en France, on fait figure d'exception. Je veux dire, quand on regarde le monde, il y a des conflits partout, quoi. Ça n'arrête pas, c'est constant. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que il faut arrêter d'être un peu naïf, faut commencer à être un peu sur nos gardes, faire attention, être un peu plus dur, et puis se rendre compte que le monde n'est pas aussi en paix et pas autant en paix que nous on peut l'être pour l'instant. Quoi.
Oui, oui, non mais...
Dernier mot.
Je suis d'accord avec vous, bien sûr, mais... Je ne peux pas m'empêcher, c'est pas parce que je vieillis et je suis nostalgique, c'est vrai que cette période de 89-91 est une période quand même... C'était bon de sentir ça dans l'air, c'est-à-dire que la paix s'est fermée, le vieux conflit historique russo-américain s'éteignait. Moi, en tout cas, j'en ai des souvenirs, on est la même génération. J'étais plutôt content que le monde aille dans cette direction, même si les conflits autour continuaient. Et je sais de quel monde je viens. Et j'évoquais dans un podcast tout à l'heure quelqu'un, un membre de ma famille qui a connu un génocide. Donc, je suis pas du tout naïf sur l'état du monde, mais je préfère quand le monde me donne l'impression d'aller vers la paix, même si aujourd'hui, il n'y va pas. Mais c'est vrai que quand, à 19 ans, j'ai vu le mur tomber, j'étais... très heureux. Je veux dire, j'en ai un très bon souvenir. Si,
voilà. Merci à Louis au 32-16. Et puisqu'on parlait de la guerre, on a appris ce matin qu'Israël avait répliqué après l'attaque de son pays par l'Iran. Israël qui aurait visé un site nucléaire. Alors, on n'a pas énormément d'infos parce que forcément, du côté iranien, on dit qu'il ne s'est quasiment rien passé. Mais quand même, des drones ont été abattus, mais qu'il n'y a pas de dégâts. En tout cas, selon des médias américains, Israël a bien lancé une attaque contre l'Iran.